Et Bastien, vous allez rester avec nous pour cuisiner ?
Je reste.
Ah bah oui, c'est Annick Bonhomme qui gère le piano jusqu'à 11h avec Gaël Mordac, caviste à Amiens. Eh bien, on vous dit bonjour et puis bonne émission de cuisine.
Bienvenue dans la cuisine de France Bleu Picardie où le dimanche, nous ouvrons le micro à tous ceux qui font la gastronomie picarde. Des confessions, toujours très honorables, je vous rassure. C'est aussi une façon de mesurer les parcours parfois atypiques de ceux qui acceptent de se raconter. Et ce matin, nous sommes avec...
Donc Gaël Mordac, je suis né à Amiens, j'ai 51 ans, je suis caviste sur Amiens, une vieille affaire, une institution amiennoise. Et après c'était quoi ?
Après c'est tout, c'est déjà pas mal pour commencer. Merci Gaël de cette fiche d'identité. C'est la maison Martini, qui est quand même effectivement, comme vous le disiez, bien connue sur la place publique. Alors c'est du ça. Coup, Mordac et Martini, c'est pas du tout le même nom, donc c'est pas une histoire de
famille. Pas du tout... Si, c'est une histoire de famille, c'est une pièce rapportée en fait. Donc j'ai commencé à travailler avec mon beau-père en 1990. Je me suis retrouvé seul en fait pour des questions de décès. Mon père est décédé en avril 92 et donc... Après, j'étais tout seul à partir de 92. Il y avait encore le grand-père donc, qui était encore là, qui donnait un petit coup de main.
Donc c'est une maison qui existe depuis quand ?
Depuis 1850. L'immeuble, alors à l'origine, on était le long de la Somme. D'ailleurs, l'origine de la société s'appelle au quai de Bercy.
Et il y avait un quai de Bercy à Amiens ?
Il y avait un quai, alors c'était la connotation, parce que les barriques de vin étaient livrées par bateau. C'était des demi-mues à l'époque, c'était des 600 litres, des gros fûts de bois. Et donc la plupart des cavistes de l'époque, qui était, alors on n'appelait pas ça des cavistes, on appelait ça des négociants en vin, parce qu'en fait ils achetaient le vin et c'était revendu en vrac essentiellement. Et donc pour une question d'accessibilité, c'était sur le quai Bellux, c'était le plus pratique évidemment pour être installé.
Et alors, ces tonneaux de vin arrivaient de Paris ou...
De Paris, oui. Alors, le quai de Bercy, c'est un peu ça, le clin d'œil. C'est qu'effectivement, beaucoup de choses arrivaient de Paris. Et la plupart étaient par péniche, par bateau. Alors, soit Paris, soit directement sur Bordeaux. Mais en général, ça transitait
par Paris,
pour des questions évidentes avec un côté
de logistique.
Pratique. Voilà, exactement.
Aujourd'hui, c'est plus comme ça, hein, que ça marche
non,
la livraison
non,
chez vous.
En tout cas, on s'est surtout éloigné de ce secteur le long de la Somme, puisque en fait l'immeuble a été construit en 1898. Géographiquement, là où on est actuellement derrière la mairie, depuis 1898 physiquement.
Ah oui, donc ça a été assez rapidement en centre-ville.
Oui. À l'époque, un terrain vague. Il n'y avait aucun immeuble, ni à gauche, ni à droite. Donc c'était un immeuble qui était tout seul, en plein milieu du terrain. Et puis les rues se sont construites, se sont agrandies. Il y avait quand même d'autres habitations, mais pas comme ce qu'on connaît actuellement, où il y a évidemment...
Bon, 1898, vous n'étiez pas encore né, vous nous l'avez dit dès le départ.
Oui, mais ça conserve quand même très bien le vin, et effectivement...
Vous avez des bouteilles de cette époque-là ?
Non, on n'a pas de bouteilles de cette époque-là, tout simplement parce que à cette époque-là, en fait, beaucoup étaient travaillés en vrac. Très peu étaient conditionnés en bouteilles. C'était vendu en fût, en fait. Donc, on recevait dans des citernes et c'était mis dans des fûts de 100, 150 litres. Et quand c'était en livraison, c'était souvent dans des fermes agricoles.
Et quand on venait chercher le vin, alors on venait avec sa bouteille et on se faisait remplir.
C'est ça.
Le vrac, on en parle de plus en plus. Donc, revient à une façon de.
On revient, moi, ça fait 5 ans que je travaille les alcools en vrac. Donc, les gens peuvent soit acheter un flacon vide sur place, soit venir avec leur flacon pour le faire remplir à nouveau. Donc, effectivement, on est un peu sur un retour en arrière dans de ce côté-là. Donc, nous, on reçoit en vrac. Et on le met dans des grosses bonbonnes d'une dizaine de litres. Et puis, en fait, on vient tirer à chaque fois que les gens viennent pour chercher leurs produits. Donc, effectivement, avant, c'était essentiellement ça. Après, on a eu rapidement, quand les moyens de transport étaient quand même plus pratiques, évidemment, on a pu accéder à des produits tout embouteillés. Et puis, surtout, sur des provenances géographiques qui pouvaient être un peu plus lointaines. Donc, rapidement, on a pu faire remonter sur Amiens du Bordeaux. Parce que, bon, vous avez, évidemment, Amiens avait aussi son vignoble avec la vallée des vignes, mais le vin était vraiment pas terrible, quoi. Donc c'est vrai que rapidement, le fait d'avoir quand même plus d'échanges commerciaux sur la France, ça permettait d'accéder aux régions viticoles qualitatives.
Une petite page de notre histoire à travers le portrait ce matin de Gaël Mordac, qui est caviste à Amiens. On se retrouve bien sûr dans quelques instants.
La vie en bleu avec le restaurant Le Quai. Cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau. Ouvert 7 jours sur 7. Quai Bellu à Amiens. Restaurant-le-quai.com.
France Bleu Picardie, à Péronne, 102.8.
Gaël Mordac est un homme qui n'aime pas s'ennuyer. Caviste, comme on dit aujourd'hui à Amiens, il a appris son métier sur le tas. Mais la maison Martini qu'il dirige aujourd'hui est née à la fin du 19e siècle, en 1895. À l'époque, le vin était amené par tonneaux sur les quais de Somme et livré comme tel en vrac. Il y avait moins de choix, mais qu'en était-il de la qualité? Est-ce qu'il y a une mémoire de ces vins-là, Gaël?
Alors, une mémoire, il n'y a pas de, il y a pratiquement plus de flacons, sauf quelques très très grands domaines.
Qui en tout cas, des traces écrites de la qualité.
Oui. Alors c'est très joli, d'ailleurs, parce que c'est des registres qui sont. Alors, on retrouve les carnets de commandes qui sont écrits à la plume. Donc ça, je les ai conservés parce que ça fait partie aussi du passé de la société. Tous les registres, que ce soit comptables ou les prises de commandes. Et puis effectivement quelques commentaires sur le vin, mais c'était moins poussé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement,
on parlait pas de cerises et de bananes.
Voilà, exactement. On n'avait pas besoin d'être aussi élogieux, en fait, surtout que l'offre était relativement simple. On parlait plutôt, quand on parlait du vrac, on parlait d'un vin à 11 degrés, à 12 degrés. On choisissait plutôt le degré, on choisissait la couleur, mais on n'était pas dans ce côté qualitatif et poussé, d'abord parce que l'offre n'existait pas, donc forcément, du coup, il n'y avait pas une grosse demande là-dessus, mais on est aujourd'hui sur des critères totalement différents en termes de choix.
Et dans ces registres, vous avez pu noter de quel coin de France l'essentiel du vin était commandé et arrivé de où?
Par ici, c'était essentiellement le Bordelais. Essentiellement le Bordelais, et puis d'ailleurs à l'époque le Bordelais se gênait pas de s'approvisionner un petit peu, de ratisser un petit peu large aussi. Hein,
donc on pouvait boire du Bourgogne sous l'étiquette voilà. De
Mais
Bordeaux, c'est ça?
On avait Bordeaux, Bourgogne et Vallée du Rhône. C'est vraiment les trois appellations qui étaient vraiment les appellations phares en termes de volume. Après, les appellations plus prestigieuses telles que évidemment sur des Margaux, sur des Pauillac ou sur la Vallée du Rhône, sur des Châteauneuf-du-Pape, des choses comme ça, c'est venu bien après.
Mais donc 1850-80, on n'a pas des grands crus, on a du vin qu'on consomme comme ça.
Ouais, c'est plutôt des consommations de volume. Clairement, c'est des vins qui sont reçus en fait, on réceptionnait en citerne. Après, c'était conditionné en cave dans des très grosses barriques de 600 litres. Et après, soit c'était un petit peu embouteillé, soit c'était vendu dans d'autres petits tonneaux. Parce qu'effectivement, suivant où ça se passait, il y avait une consommation. Et puis les gens se débrouillaient comme ça, en fait. Hein. Donc c'était assez empirique parce que la conservation dans des fûts, surtout entamés, c'était quand même
compliqué.
Alors même si c'était consommé rapidement, c'est aussi la différence. Mais c'était quand même un peu compliqué.
On consommait plus?
On consommait beaucoup plus en volume, bien sûr.
Ah oui?
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des carnets de commandes dans des fermes, alors que j'ai continué à visiter. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais que je continue à visiter. Et il y avait des carnets de commandes où c'était très courant de prendre. Il y avait trois barriques de vin, donc c'était des barriques de 225 litres.
Ah et oui, puis, quand
même. Oui, ça fait quand même du volume. Ouais. Hein. Et puis, il y avait.
Pour une seule maison, pour une seule
pour
ferme.
Pour une ferme. Mais vous aviez beaucoup d'ouvriers agricoles aussi. Donc, forcément, c'était systématique. À chaque repas, il y avait évidemment du vin. Puis, c'était des métiers physiques et ils appréciaient d'avoir du vin, mais aussi de l'alcool. Donc, on vendait aussi ce qu'on appelle des dames Jeanne. Donc, c'est comme des grosses amphores en verre qui étaient enrobées d'osier. C'est comme des paniers. Donc, c'est pour protéger pendant le transport. Les dames Jeanne faisaient à peu près 20 litres d'alcool. Et c'était courant de mettre 2 à 3 dames Jeanne d'alcool lors des passages.
Hein. Et ces commandes-là, c'était pour 6 mois ou pour
c'était
l'année
6 mois, c'est
c'était
ça.
6 mois.
C'était 6
ouais.
mois. C'était 6 mois à peu près. Parfois plus. Mais bon, attention, hein, c'est une époque parce que là où on est installé actuellement, c'était ça à l'époque. Les livraisons se faisaient à cheval. Donc, on a encore les vieilles roues des carrioles. J'ai retrouvé plein de matériel, des harnais, des sangles pour les chevaux. Et en fait, l'arrière du magasin, comme on était sur isolé, en fait, la partie arrière est conçue pour un accès à voiture à cheval. On a le grenier à foin qui était tout au-dessus de ce qui aujourd'hui est notre entrepôt à alcool. Donc, on avait un grenier à foin et tout était monté à la fourche. Et donc, il y avait l'entretien des chevaux et puis les livraisons à cheval.
Et oui, une autre époque. Portrait ce matin dans la cuisine de France Bleu Picardie d'un caviste et de l'histoire aussi de cette maison. On est ravis de passer un moment avec vous, Gaël Mordac, la maison Martini. Et l'aventure continue. On se retrouve dans quelques instants.
La vie en bleu avec le restaurant Le Quai. Cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau. Ouvert 7 jours sur 7. Quai Bellu à Amiens. Restaurant-le-quai.com. France Bleu Picardie à Montdidier 93.2. Mmh.
juste pour voir un peu devant toi. Le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais.
Cuisine le dimanche matin sur France Bleu Picardie. On n'échange pas nos recettes, on prend le temps de s'intéresser au parcours de ceux qui nous régalent. Et aujourd'hui, confession d'un caviste. La maison Martini à Amiens existe depuis 5 générations. C'est Gaël Mordac, le beau-fils, qui a repris la direction en 1992. Un métier d'ailleurs qu'il n'avait pas choisi.
Non, c'est vraiment entre guillemets, le hasard de la vie. Pas forcément sur la période la plus heureuse, puisque moi je faisais des études j'avais fait des études de commerce et je m'étais spécialisé avec une maîtrise de compta finance pour faire expertise comptable. Et à l'époque où je faisais ma maîtrise de compta finance, mon beau-père a déclenché un cancer. Et donc, en fait, je suis venu l'aider pour l'activité, pour essayer de faire ce que je pouvais l'aider, pour le soulager. Et puis, c'est aussi comme ça que j'ai découvert le métier. Et puis après.
Vous aimiez le vin déjà un peu ?
J'aimais le. Alors,
parce que vous avez quoi, une 20-25 ans à peine à ce moment-là ?
Ah, j'avais 23 ans.
Oui.
Donc à l'époque, j'étais plutôt bière, parce que j'étais dans un environnement sportif et les troisième mi-temps étaient essentiellement la bière, voilà. Mmh. Un petit peu de vin aussi, on appréciait, mais j'avais pas une vraie culture du vin. J'aimais le produit, mais je savais pas forcément, comme beaucoup, je savais pas vraiment expliquer pourquoi j'aimais celui-là plutôt qu'un autre. Mais j'aimais bien.
Ça vous a pas rebuté, en tout cas.
Non, du tout, ouais. Du tout. Je trouvais le métier passionnant. Et puis voilà, le hasard, le malheur de la vie, on va dire, suite à un décès, j'ai passé ce cap de dire plutôt que de faire l'activité d'expertise comptable, je vais
reprendre
l'affaire. Parce
qu'il fallait que ce soit, puisque c'est votre épouse,
oui.
Vous parlez du papa de votre épouse, oui. Il n'y avait pas de garçon ou il n'y avait pas...
Un garçon, qui existe toujours d'ailleurs, qui est actuellement gynécologue, qui a bien réussi en gynécologie sur Nantes. Donc c'était le seul garçon. Et puis mon beau-père travaillait également avec son frère, Guy, qui avait 3 filles. Et qui malheureusement a eu le même malheur que mon beau-père, c'est qu'il est décédé en fait juste entre les deux, en 91. Donc en fait, en 2 ans de temps, les deux dirigeants,
frères, ouais.
Qui étaient deux frères, sont décédés.
Et alors, c'est un métier qui ne se transmet pas aux filles, ou c'est juste parce que les filles avaient pas d'intérêt à se...
Les filles avaient pas du tout de formation, je pense, à cette époque-là dans ce domaine-là.
Mais vous non plus.
Et moi non plus. Mais alors, je saurais pas vous dire non. Alors, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un métier qui est facilement féminin. Très facilement. Peut-être qu'à l'époque c'était plus compliqué, oui, c'est certainement. Et puis encore à l'époque, on avait aussi une activité quand même importante physiquement, parce qu'on faisait beaucoup de mise en bouteille, parce que quand vous portez des casiers en bois de 15 litres, ça commence à faire du poids. Clairement, enfin dans la profession, quand je suis arrivé dans la profession, il n'y avait aucune femme, oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, ça, effectivement, ça fait entre guillemets un peu sourire, parce que c'est même, on trouve très facilement maintenant aujourd'hui des femmes qui sont cavistes et qui sont passionnées par le vin, même dans l'œnologie, qui a été, par exemple, l'œnologie, c'est un secteur qui a été extrêmement fermé pendant très longtemps au milieu féminin. Très, très fermé. Et puis, c'est aujourd'hui parce qu'il y a des femmes qui ont repris des exploitations familiales, qui ont pu accéder aussi à cette formation d'œnologie. Mais il a fallu quand même... C'est relativement récent, en fait. Il a fallu attendre très longtemps avant que ça puisse changer.
Vous découvrez le métier, par quel bout vous le prenez ? Parce que bon, la finance, au moins, ça, vous saviez gérer la... Vous aviez de quoi... les capacités de gérer l'entreprise, mais la découverte du vin ?
Alors la partie quand j'ai démarré en 90, j'ai eu à peu près deux petites années où j'ai pu entre guillemets avoir une certaine liberté en termes de formation aussi. Et en fait un des facteurs déclenchants, j'ai passé pratiquement 3 mois dans le Bordelais avec un propriétaire de Grand Cru qui est Jean-Michel Quillet.
Et qui va lui apprendre le métier ? Là aussi, une rencontre déterminante pour Gaël Mordac qui débute dans ce métier par hasard. Portrait d'un caviste amiénois ce matin dans la cuisine de France Bleu Picardie.
La vie en bleu avec le restaurant Le Quai. Cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau. Ouvert 7 jours sur 7. Quai Bellu à Amiens. Restaurant-le-quai.com. France Bleu Picardie à Abbeville. 100.6 France Bleu. Le dimanche, entre 11h et midi, c'est Edmain Coin sur France Bleu Picardie.
Et on se retrouve tout à l'heure avec vous, Françoise, pour parler notamment de la fête des jardiniers. C'est en ce moment à Rivry. Enfin, c'est en ce moment, ça commence à 11h.
Oui,
c'est
à Rivry, le jardinier naturel. Il y en a jusqu'à ce soir, 18h, donc on a le temps d'y aller.
Il y a de quoi faire. Et puis, on pourra également aller faire un petit tour à Ailly-sur-Noix pour le souffle de la terre. On sera avec la chorégraphe de ce son et lumière, également directrice de danse dans le centre-ville d'Amiens. Barbara Auguet sera avec nous tout à l'heure dans Edmain Coin dès 11h, tout comme Pierre-Yves Dorez. À tout à l'heure,
Vincent.
France Bleu Picardie, dès demain coin. Françoise Desmarais, Vincent Schneider.
Nous sommes un lien.
Un lien entre les gens.
Un lien de confiance et de solidarité.
Qui permet à tous de veiller sur chacun.
Nous sommes aussi un lien qui va plus loin.
Une nouvelle mutuelle dont le rôle n'est pas seulement de rembourser vos frais de santé.
Mais aussi et surtout de vous aider à vivre mieux.
Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble.
Nous sommes Aesio. Une nouvelle mutuelle.
Qui se construit pour et avec vous.
Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, numéro Oria 16006968. Plus d'informations sur aesio.fr.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000.
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
France Bleu Picardie.
Le portrait du dimanche dans le rendez-vous de la cuisine sur France Bleu Picardie, c'est celui de Gaëlle Mordac, caviste à Amiens. Gaëlle reprendra l'affaire familiale en 1992. Avant cela, il se forme auprès de Jean-Michel Quillet dans le Bordelais, une belle maison.
Qui est propriétaire de Rosangassy, qui est un deuxième grand cru classé de Margaux, Croisébage, qui est un grand cru classé de Pauillac. Et puis un cru bourgeois dans le Haut-Médoc, un très joli domaine aussi. Et en fait, j'ai vécu pendant 3 mois avec ce propriétaire-là, qui est un des rares, c'est un des rares derniers propriétaires de grands crus à ne pas être en société, à être effectivement un propriétaire individuel. Pendant les 3 mois, en fait, j'ai vécu comme si mon père me mettait en route, en fait. Il m'a accueilli comme son fils, et il m'a transmis l'amour de son métier. Alors, c'était pas forcément un métier de caviste, c'était spécifique sur le métier du vin. Mais j'ai énormément appris sur le vin d'une façon générale.
C'est tellement complexe, la vinification.
C'est énorme. Il m'a confié, alors à l'époque, avec le recul, j'avais dit, mais faut être fou pour faire ça. Il m'avait mis à l'époque avec le, on était juste à deux pour faire la vinification de ce grand cru sur Pauillac, puisque j'étais à Croisébage. Donc j'étais avec le maître de chez et moi qui le secondais. Alors le maître de chez pensait que j'étais de formation œnologue. Donc en fait, il m'a fait faire des trucs. Je lui demande à chaque fois quand même de m'expliquer. Donc au début, il me dit, mais il prend pour un bonnet ou il veut me tester. Donc au début, c'était un peu tendu. Et puis en fait, au bout de quelques temps, je lui ai quand même expliqué que c'est lui qui devait m'apprendre et pas l'inverse. Et donc là, ça a détendu l'atmosphère. Et en fait, c'est pareil. En fait, j'ai été en complète immersion. J'ai fait une vinification d'un millésime à l'époque, qui était le millésime 90, qui était en plus un millésime ultra facile à vinifier. Très beau millésime. Et tout se passait comme dans les livres.
D'accord.
Quand ça devait démarrer, les fermentations démarraient. Quand les malolactiques devaient démarrer, tout démarrait.
Ça vous semblait magique quand même.
Parce que, enfin, c'est un peu comme aujourd'hui, on voit les gens qui se disent, je vais être en immersion dans la profession de quelqu'un d'autre. En fait, là, je vivais le métier de quelqu'un et pas juste l'observer, mais le faire. Et évidemment, en 2 mois, vous avez appris
beaucoup de choses,
énormément de choses. Et la journée, en termes de vinification, en termes de technique, en termes de dégustation. Et puis en plus, je savais que c'était certainement la seule fois de ma période professionnelle où j'aurais l'occasion de passer autant de temps. En vinification. Et puis le soir après, on recommençait à refaire le monde dans le domaine du vin et dans plein de choses. Donc ça a vraiment été une formation très accélérée. Et puis après, c'est un
on apprend sur le tas.
Exactement, ouais. Exactement. Et puis on est dans un métier particulier, c'est qu'on ne peut jamais dire qu'on sait tout sur le vin. Aucun professionnel ne peut dire cela. Tout simplement parce que le vin tous les ans change, avec chaque millésime est différent. Donc en fait, on découvre tous les jours dans ce métier de nouvelles saveurs, de nouvelles typicités. Et si c'est pas lié à des techniques, c'est lié tout simplement à une météorologie, c'est un produit vivant. Donc on a toujours des découvertes. Donc c'est aussi ce côté passionnant, bien entendu.
Et puis à une époque, vous avez relevé un défi, un challenge qui n'a rien à voir avec le vin, mais qui reste toujours autour de la table. Vous avez participé à un dîner presque parfait.
Alors, ah oui, c'est vrai.
Les plus jeunes ne s'en souviennent plus parce que finalement, ça commence à faire quoi, 15 ans peut-être, non
ben, à peine.
10 ans, faire 12, une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, ouais. Un peu plus d'une dizaine d'années. Mais en fait, c'est marrant que vous m'en parliez parce que la semaine dernière, ma fille m'a demandé les CD parce que...
Les DVD, vous voulez dire?
Oui, à l'époque, c'était les DVD quand même. M'a demandé les DVD pour revoir l'émission avec deux autres amis et puis son compagnon. Parce qu'effectivement, elle en avait parlé et c'était marrant de regarder l'émission. C'était marrant de revoir les images.
Alors, la cuisine, c'est quelque chose qui vous a toujours plu ou c'est en fréquentant le vin que...
Non, ça c'est comme beaucoup d'enfants, c'est les grands-parents et ma maman qui m'ont transmis cette passion, puis qui m'ont laissé cuisiner aussi. Donc j'ai toujours aimé ça. Et puis c'est aussi le côté épicurien. Quand on est épicurien, on aime bien les bonnes choses. Donc c'était une passion. Alors après, c'était une passion. C'était surtout sur l'émission en question. C'est surtout que j'aime toujours avoir des challenges. En fait, il me faut toujours des objectifs.
Donc, c'est le côté sportif, parce que vous l'avez évoqué très rapidement. Vous êtes hockeyeur, mais pas sur glace, sur gazon.
Non, sur gazon, ouais. Sur gazon depuis toujours.
Et vous continuez à faire des compétitions d'ailleurs.
Et encore aujourd'hui, oui. Ouais, on a fait donc l'année dernière une belle Coupe du Monde en Espagne dans la catégorie master. Vu mon âge, évidemment.
Ah bah oui, ça.
Ça serait compliqué.
Pas encore senior.
Alors en fait, ce qu'on appelle les masters, c'est par tranche d'âge. stage. Donc en fait, c'est, ouais, c'est 5 ans en 5 ans. Donc une Coupe du Monde l'année dernière, une Coupe d'Europe cette année, et là cet été en Allemagne. Donc c'est aussi encore des challenges parce que ça oblige évidemment à avoir encore une activité physique et à s'entretenir et à continuer à jouer en championnat. Donc c'est effectivement, ça fait partie, c'est un challenge. Celui-là dure un peu plus longtemps.
Et vous disiez que votre maman, votre grand-mère cuisinait bien, mais elles étaient du métier ou pas du tout?
Ah non, pas du tout.
Non,
c'est vraiment le côté ludique, là. C'était ouais, vraiment sur le... mais bon, après, on a toujours eu un jardin chez mes parents, donc on n'avait que des produits maison, et effectivement, qui du coup étaient cuisinés.
Dernière étape avec Gaël Mordac, caviste à Amiens, dans ce portrait du dimanche sur France Bleu Picardie. C'est à suivre dans quelques minutes.
La vie en bleu, avec le restaurant Le Quai. Cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau, ouvert 7 jours sur 7. Quai Bellu, à Amiens. Restaurant-le-quai.com.
France Bleu Picardie. Écoutez, on est bien ensemble à Amiens sur le 100.2.
Déjà mort, peut-être.
Installée derrière la poste, la maison Martini est bien connue sur la place publique puisque cette maison de vin existe depuis 1895. Portrait d'un épicurien et sportif ce matin sur France Bleu Picardie. Gaël Mordac n'a jamais quitté Amiens.
Non, pas, même pas pour les études. Donc,
Amiennois pur et dur.
Ouais. Après, voilà, par le biais du sport, j'ai pu aussi beaucoup voyager. Mais,
et du vin
Et du vin. Bah, alors, le vin, quand on voyage, c'est l'avantage, c'est qu'on peut aller n'importe où dans le monde. En général, il y a toujours un côté vinicole, sauf quelques rares.
On boit aussi, quand on déguste un peu de vin, on voyage également.
On voyage, on fait voyager les autres. C'est aussi le côté très passionnant. Et puis, on est sur un produit agricole. Des fois, on l'oublie parce que c'est un produit fini, mais on est à l'origine sur un produit agricole, vivant. Et il y a toujours plein d'histoires à raconter sur le vin aussi. C'est ça qui est intéressant, sur la façon dont c'est fait, sur la passion des gens qui le font. Parce que c'est généralement un métier de passionné, à part certains domaines qui sont maintenant un peu plus informels, parce que la taille et l'importance du domaine fait que...
Et que ça a été racheté par...
Voilà, donc c'est un peu plus compliqué, mais...
Des Chinois, des...
Entre autres, voilà, entre autres, des financiers, hein, des fonds de pension, beaucoup. Mmh. Donc bon, ça perd un peu de son âme et de son cachet, ça n'empêche pas que le produit est bon, mais on n'a pas la même histoire. Voilà, la carte postale n'est pas la même, mais il y a encore, heureusement, en France et à l'étranger, bon nombre de vignerons passionnés et qui font de très belles choses, qui innovent, qui tentent des choses. Donc ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes.
Et alors pour terminer, parce qu'on l'a fait, on est passé un peu rapidement, aimer cuisiner et cuisiner dans le cadre d'une émission de télévision, de recevoir du monde, ça demande un petit peu plus que savoir agencer quelques bons produits.
C'est vrai que c'est pas uniquement la partie technique. Il faut d'abord être quand même relativement à l'aise devant une caméra, et puis tout simplement gérer sa pression, gérer son stress. Mais ça, c'est ce qu'on fait au quotidien quand on est sportif. Hein. C'est de savoir se concentrer et de pas partir dans une spirale où on va se casser un petit peu la gueule, quoi. Mais donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un tout. Cette émission, c'est pas juste une émission culinaire. Hein. Mais c'était intéressant. Franchement, j'ai trouvé que c'était une très très belle expérience. J'ai pas voulu, puisque en ayant gagné, je pouvais accéder à des finales régionales que je n'ai pas souhaité faire, parce que là, je trouvais que l'émission commençait à évoluer d'une façon un peu critique, et ça pouvait être parfois très
caricatural.
Ouais, et quand on a une suivant la profession, ça peut être dangereux, voilà. Donc je trouvais que la première fois ça s'était bien passé, que j'ai trouvé relativement épargné, parce que des fois j'ai trouvé qu'il y avait certains candidats qui étaient passés un peu à la casserole, comme on dit, et je trouve qu'après, quand vous retournez au travail, c'est quand même pas très simple. Et donc là, voilà, comme ça s'était bien passé, j'étais content de l'émission, ben j'ai dit voilà, c'est très bien.
Et vous souvenez d'un des plats que vous avez fait et dont vous étiez assez fier?
Alors j'avais fait vraiment local. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que j'avais travaillé un tartare de veau. Et en fait, c'est parce que un de mes enfants avait fait avec mes beaux-parents avait fait un étoilé. C'est le premier étoilé qu'il faisait. D'ailleurs, c'était le Jules Verne dans la Tour Eiffel. Il était ravi d'avoir participé à ce repas. Et il m'avait fait voir à l'époque le menu qu'il avait eu, qui était dédicacé. Donc, il était très fier de ça. Mais savoir pourquoi le tartare de veau, j'avais trouvé ça intéressant de travailler justement cette viande noble sous forme de tartare. Et du coup, je l'ai renouvelé. Je l'ai fait.
Et il y avait quoi dans ce tartare?
J'avais mis un petit peu de salicorne pour travailler le côté baie de Somme, évidemment. Malheureusement, je voulais aussi travailler les oreilles de cochon, mais c'était pas la bonne période. Mm-hmm. Quand on le présente, et entre le temps où on présente le menu qu'on souhaite faire pour l'émission et l'émission réellement, voilà, les dates sont pas forcément exactement les mêmes. Donc, j'ai pas pu mettre tous les ingrédients que je souhaitais.
Et alors, question subsidiaire, Gaël Mordac, un tartare de veau avec des salicornes, qu'est-ce qu'on sert avec?
Ah, alors là, j'avais mis un vin blanc pour donner un petit peu de peps, pour amener de la fraîcheur. De mémoire, ça devait être un saumur blanc. On était sur cépage Chenin et Sauvignon, qui en fait avaient des notes d'agrumes pour retrouver le côté un peu peps du tartare, et puis pour donner un côté très désaltérant pour démarrer.
Merci Gaël.
Ben avec plaisir.
Un portrait que vous pouvez retrouver bien sûr sur francebleu.fr. Nous retrouverons également Gaël demain dans Les Experts avec Patrick Vincent, qui s'intéressera aux foires au vin pour prendre bien sûr les bons conseils. Et dans La Cuisine demain, nous serons avec des grands gourmands qui, eux, évoqueront un pique-nique dimanche prochain à Amiens. À demain.
La vie en bleu avec le restaurant Le Quai. Cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau. Ouvert 7 jours sur 7. Quai Bellu à Amiens. Restaurant-le-quai.com.
Téléchargez l'application France Bleu sur votre smartphone et choisissez votre radio. France Bleu Picardie.
France Bleu Picardie. France Bleu.
What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go.
Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant.
T'es dans ma tête.
Sur France Bleu Picardie. Et bien sûr, on vous retrouve, hein, Annick Bonhomme, demain avec Gaëlle Mordac. Gaëlle Mordac qui sera l'invité, donc ce caviste, dans Les Experts de France Bleu Picardie. Et d'ici quelques instants, oui, c'est Tête Main Coin avec Vincent Schneider sur France Bleu Picardie. Mais on va vous parler un peu aussi de la rando France Bleu. Et oui, cet événement qui est parti depuis 9h maintenant. Le dernier départ, c'est d'ici moins de 5 minutes à 11h à Amiens. On vous en parle un tout petit peu d'ici quelques instants. Ça va venir très très vite. On vous en parle d'ici quelques secondes.
Écoutez, on est bien ensemble à Abbeville sur le 100.6.
Du lundi au vendredi dès 5h, commencez la journée du bon pied avec France Bleu Matin. Info, météo, trafic, du rire avec les Chevaliers du Fiel, toute la musique France Bleu que vous aimez et les plus beaux cadeaux à gagner. France Bleu Matin, du lundi au vendredi de 5h à 9h sur France Bleu Picardie.
Du 1er au 7 octobre, France Bleu présente le festival d'avant-première CGR Télécable Satebdo avec la chaîne OCS. 7 films événements à découvrir avant tout le monde dans votre cinéma CGR. Avec en ouverture mardi 1er octobre, Gemini Man.
Cool.
Le nouveau film du réalisateur oscarisé Ang Lee avec Will Smith.
T'es qui ? Je veux pas te tuer !
Moi je peux alors !
Du 1er au 7 octobre, le festival d'avant-première CGR près de chez vous, un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu, yeah.
Nous sommes un lien.
Un lien entre les gens.
Un lien de confiance et de solidarité.
Qui permet à tous de veiller sur chacun.
Nous sommes aussi un lien qui va plus loin.
Une nouvelle mutuelle dont le rôle n'est pas seulement de rembourser vos frais de santé.
Mais aussi et surtout de vous aider à vivre mieux.
Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble.
Nous sommes Aesio. Une nouvelle mutuelle.
Qui se construit pour...